vous écoutez Radio France Internationale et vous avez bien raison, il est 15h ici à Paris, 13h temps universel.
RFI Midi, Stéphane Genest.
Dernière partie de RFI Midi, bienvenue. Si vous nous rejoignez pour cette demi-heure consacrée à l'actualité du continent américain et à Haïti, on revient en longueur sur ce lapsus du président américain cette nuit, Joe Biden, candidat à sa succession, qui a confondu Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine. Énième gaffe de Joe Biden qui inquiète dans les rangs démocrates aux États-Unis. Vous entendrez aussi l'avocate de la jeune femme qui accuse deux rugbymen français de viol avec violence en Argentine. Et puis l'actualité des Outre-mer avec Alex Léveillé. Nous parlerons économie aujourd'hui, Alex.
Effectivement, avec les conséquences de la guerre ukrainienne sur les agriculteurs martiniquais et l'impact de l'ouragan Beryl pour les îles du sud de la Caraïbe.
À tout à l'heure, on vous appelle dans une vingtaine de minutes. Mais d'abord, le journal. Avec vous, Gilles Moreau. Bonjour Gilles.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
Et au 10e mois de guerre entre Israël et le Hamas, l'armée israélienne continue de bombarder la bande de Gaza.
Oui, aujourd'hui, la défense civile palestinienne annonce avoir retrouvé une quarantaine de corps dans deux quartiers de Gaza-ville. Alors que la famine sévit dans toute l'enclave, les États-Unis ont annoncé le retrait du port artificiel qui avait été mis en place pour livrer de l'aide humanitaire. Il devait permettre de contourner le blocus imposé par Israël à Gaza. Le projet a échoué. Oriane Verdier.
Le projet avait été annoncé il y a 4 mois par le président américain Joe Biden. L'allié israélien refusant de laisser entrer de l'aide humanitaire dans Gaza, Washington avait trouvé la solution, faire parvenir par la côte les biens indispensables à la population. Dès l'annonce, les acteurs humanitaires émettaient déjà des réserves. La mission dite d'urgence risquait de prendre du temps à se mettre en place. Le flux ne pourrait de toute façon pas être suffisant pour remplacer l'acheminement par la route. Et une fois les biens déchargés sur terre, il n'y avait de toute façon pas de moyen de les distribuer. Les bombardements, le manque de carburant et le chaos dans lequel est plongée l'enclave empêchent les déplacements. 2 mois plus tard, le pont flottant de 300 millions d'euros était finalement opérationnel. Mais depuis, les livraisons ne cessent d'être annulées. La mer, trop agitée, endommage régulièrement la jetée. Les opérations vont donc être arrêtées définitivement. Aujourd'hui, à Gaza, selon l'UNICEF, 8000 enfants de moins de 5 ans ont besoin de traitement pour malnutrition aiguë. 28 en sont morts. Les experts des droits de l'homme de l'ONU accusent Israël de mener une campagne de famine intentionnelle et ciblée.
Oriane Verdier du service international. Encore une tragédie lors d'une traversée de la Manche entre la France et l'Angleterre. 4 personnes ont péri dans le naufrage d'un bateau pneumatique transportant des migrants. Une 60aine de migrants qui avaient pris la mer de nuit depuis les côtes proches de Boulogne-sur-Mer. L'une des figures du nationalisme catalan est de retour en Espagne. Marta Rovira est la secrétaire générale de la gauche républicaine de Catalogne. Après plus de 6 ans d'exil en Suisse, elle est revenue en Catalogne depuis la France avec d'autres leaders indépendantistes. Tous ont bénéficié de la loi d'amnistie adoptée le 30 mai dernier par le Parlement espagnol.
On prend la direction de Washington où il est 9h03 et la fin du sommet de l'OTAN.
Ce sommet a vu de nouveaux engagements pris en faveur de l'Ukraine en guerre contre la Russie. Les alliés ont annoncé le transfert imminent de F-16 de fabrication américaine, de nouveaux systèmes de défense antiaérienne, ainsi qu'un engagement financier d'au moins 40 milliards d'euros en aide militaire. L'OTAN a pris des accents volontariste, mais sans parvenir à faire oublier l'âge de Joe Biden. Sa capacité physique et sa fraîcheur n'ont cessé d'alimenter les échanges en marge du sommet. Épinglé notamment pour ses lapsus, le président américain, candidat à sa réélection, a reçu des marques de soutien de nombreux homologues avec une image du président français Emmanuel Macron.
Il nous arrive à tous de faire des lapsus. Ça m'est arrivé, ça m'arrivera sans doute demain. Je vous demanderai la même indulgence qu'il faut avoir entre personnes bienveillantes. Maintenant, j'ai pu discuter avec le président Biden longuement hier lors du dîner. J'ai pu aussi l'écouter échanger en marge des rendez-vous. J'ai vu comme à chaque fois un président qui est aux affaires, en charge, précis sur les dossiers, qu'il connaît bien. Un homme expérimenté, parce qu'il est sans doute autour de la table l'un de ceux qui a le plus de profondeur de champ sur ces sujets internationaux et dont la solidité en tant qu'allié, sa connaissance et son attachement à l'Europe sont exemplaires.
Emmanuel Macron au sommet de Washington où l'OTAN s'est inquiété du soutien apporté par la Chine à la Russie en guerre contre l'Ukraine. La Chine et la Biélorussie ont commencé cette semaine des exercices militaires conjoints à quelques kilomètres seulement de la frontière polonaise. Des exercices atypiques, Franck Alexandre, qui déplaisent à l'OTAN.
Oui, ces manœuvres intitulées « Attaque du faucon » à Brest, une ville du sud-ouest de la Biélorussie, sont officiellement présentées comme des exercices antiterroristes. Néanmoins, Gilles, sont inclus des procédures de débarquement de nuit, de franchissement de cours d'eau, ainsi que des simulations de combat en zone urbaine. Ni Minsk ni Pékin n'ont précisé le nombre de soldats engagés, mais ces manœuvres inédites ont tout d'un entraînement de haute intensité. Une coopération qui remonte à l'automne dernier, pour répondre aux nouveaux défis mondiaux, indique le ministère chinois de la Défense. En envoyant des troupes sur le flanc est européen, Pékin démontre surtout sa capacité à projeter des forces sur des théâtres extérieurs. C'est un signalement stratégique. Cette présence chinoise aux marches de l'Europe témoigne aussi de la proximité de Pékin avec Moscou et son vassal biélorusse. L'OTAN a d'ailleurs, dans son communiqué final à Washington, formulé un avertissement à l'Empire du milieu, l'accusant de jouer un rôle déterminant dans la guerre menée par la Russie au travers d'un soutien sans limite apporté à l'industrie de guerre russe.
Merci Franck pour cet éclairage. C'était Franck Alexandre en direct. Les deux rugbymen français accusés de viol sont arrivés à Mendoza, dans le nord-ouest de l'Argentine. Oscar Jégou et Hugo Oradou doivent être entendus par la justice pour répondre à des accusations de viol avec violence. Tous deux doivent être placés en détention provisoire dans l'attente de leur procès. La victime présumée est une Argentine âgée de 39 ans.
Et vous entendrez l'avocate de cette victime dans une dizaine de minutes sur RFI. Mais en attendant, on va au Venezuela où l'école publique va mal, Gilles Moreau.
Oui, en cette fin d'année scolaire, les syndicats alertent sur les conditions d'éducation des enfants vénézuéliens dans les écoles publiques. La présidente de la Fédération d'enseignants a fait passer un message à la population. L'éducation publique se porte mal et il n'y a plus de communication possible avec les autorités. Correspondance à Caracas d'Alice Campagnol.
Accidenté, voilà comment Carmen Teresa Marquez, présidente de la Fédération des enseignants, a qualifié l'année scolaire qui vient de se terminer. Infrastructure en mauvais état, coupure d'eau et d'électricité, professeurs payés quelques dollars par mois. Difficile dans ces conditions de suivre une scolarité normale. On écoute la représentante des professeurs.
Sont muchas las causas.
Les causes sont nombreuses. C'est pourquoi nous parlons d'éducation de mauvaise qualité. Les élèves ont très peu d'heures de classe. Et dans la plupart des cas, ce n'est pas parce que les professeurs ne voulaient pas faire cours, mais parce qu'ils n'ont même pas de quoi payer le transport public pour se rendre à l'école.
Aujourd'hui, les enseignants gagnent environ 20 euros par mois, un salaire si bas qu'ils doivent cumuler plusieurs métiers. C'est ainsi qu'est apparu l'horaire mosaïque, 2 à 3 jours seulement de classe par semaine, afin que les professeurs puissent mener une autre activité en parallèle. Du côté des élèves, la représentante des professeurs l'a dit, ils ne peuvent pas, dans ces conditions, acquérir les connaissances requises. Alice Campagnol, Caracas, RFI.
En France, les leaders du nouveau Front populaire peinent à s'accorder sur un nom au poste de Premier ministre. Un cinquième jour de tractation est en cours pour ces chefs qui ne se hasardent plus à promettre un nom d'ici à la fin de la semaine. Les négociations patinent pour proposer un nom de Premier ministre sur fond de désaccord entre la France insoumise et le Parti socialiste. Gabriel Attal, lui, est bien parti pour prendre la tête du groupe des députés macronistes à l'Assemblée nationale. Le groupe Renaissance élira demain samedi son nouveau président et l'actuel Premier ministre devrait être le seul candidat. La 13e étape du Tour de France actuellement entre Agen et Pau, c'est l'une des toutes dernières occasions pour les sprinteurs de s'illustrer avant l'arrivée ce week-end dans les Pyrénées. A noter que le Slovène Primoz Roglic, victime d'une chute hier, a été contraint de déclarer forfait. Bonne journée sur RFI dans les médias en compagnie de Stéphane Genest.
C'était le journal avec Gilles Moreau. On reste ensemble 20 minutes d'actualité du continent américain et à Haïti, à Port-au-Prince, où il est 9h09.
RFI Midi, l'actualité d'Haïti et des Amériques.
Et on en parlait dans le journal avec Gilles Moreau de l'état de santé de Joe Biden qui continue d'inquiéter aux États-Unis. Le président américain, candidat à sa réélection, a enchaîné les lapsus cette nuit. Il y a 2 semaines, le débat raté avec Donald Trump qui avait fait planer de sérieux doutes sur sa santé mentale. Hier, au sommet de l'OTAN, il a annoncé le président Vladimir Poutine alors qu'il cédait la parole en fait à la tribune au président ukrainien Volodymyr Zelensky. Et quelques heures plus tard, lors d'une conférence de presse, il a réaffirmé son refus de laisser la place de la candidature démocrate à la présidentielle, Joe Biden, qui s'est également voulu rassurant.
The only thing age does is help you with it.
La seule chose que l'âge apporte, c'est de la sagesse, si vous y prêtez attention. Donc ce que je veux dire, je pense que c'est important, si le neurologue me dit qu'il faut passer à un nouvel examen. À ce propos, j'ai tout rendu public, je n'ai rien caché. Vous ne demandez pas à Trump ses examens, ok ? J'ai tout dévoilé. Tous les jours, je suis entouré de très bons médecins. S'ils pensent qu'il y a un problème, je vous le promets, même s'ils ne pensent pas qu'il y a un problème, s'ils pensent que je devrais repasser un examen neurologique, je le ferai. Personne ne me le suggère aujourd'hui.
Joe Biden, le président américain qui se justifie et qui fait face après ce lapsus, mais ses capacités cognitives restent au cœur du débat aux États-Unis. De plus en plus d'élus démocrates appellent à son retrait de la course à la présidentielle. Parmi eux, Jim Himes, principal démocrate au sein de la commission renseignement du Congrès. Il s'est exprimé sur CNN juste après la conférence de presse de Joe Biden.
Tout ce que je peux faire, c'est regarder les chiffres. Aucun président n'a gagné avec un taux de popularité de 37%. Regardez les États clés, car c'est une course qui va se jouer dans 4 ou 5 États. Et vous pouvez regarder différents sondages, mais le président est en tête dans aucun d'entre eux. Et après, on peut se demander quelle est la tendance actuelle. Vous vous imaginez si dans 3 mois, nous avons une performance similaire à celle que l'on a vue au dernier débat, juste avant les élections? Est-ce que vous voulez prendre ce risque? Moi non. C'est l'un des 10 plus grands présidents. Pourquoi vouloir parier un tel héritage? Vous allez parier votre héritage en risquant d'être l'homme qui a transmis le pays à un tyran.
Voilà la réaction au sein du Parti démocrate et ses lapsus de Joe Biden font évidemment la une de la presse américaine. Bonjour Antoine Galen.
Bonjour.
Et on l'imagine, cela fait couler beaucoup d'encre.
Oui, les avis divergent. Écarte-toi, Joe, il est temps, suggère Jackie Calmes du Los Angeles Times, un festival de lapsus qui inquiète l'éditorialiste car tout cela est à l'avantage de Donald Trump. Certains se sont déjà fait une raison, Biden sera le candidat démocrate et nous ne pouvons rien y faire, même si cela ressemble à un désastre potentiel, écrit l'éditorialiste Sarah Pequeño dans USA Today. D'autres sont moins critiques, comme Charles M. Blow, éditorialiste au New York Times. Joe Biden est toujours debout, le remplacer ne garantira pas la victoire et pourrait produire le chaos. Ce n'est pas l'avis du service politique du journal new-yorkais pour qui les conseillers de Joe Biden devraient lui prouver qu'il se dirige vers une défaite certaine.
La presse aux États-Unis avec vous, Antoine Galen, vous restez avec nous, on vous retrouve tout de suite.
RFI à Port-au-Prince, 89.3 FM.
9h12 à Port-au-Prince en Haïti, où la capitale est toujours gangrénée par des bandes armées. Illustration dans l'hôpital de la ville, puisque les hôpitaux, centres de soins et pharmacies ont longtemps été pris pour cible. On vous en a parlé cette semaine sur RFI. Ce dimanche, l'hôpital de Port-au-Prince, le plus grand du pays, a été repris aux mains des gangs. Gary Conille, le premier ministre haïtien, s'est d'ailleurs rendu sur place mardi, se félicitant d'ailleurs de la reprise de l'activité de l'établissement. Sauf que pour le moment, l'hôpital ne fonctionne pas à 100%, loin de là, Marie-Andrée Bélange.
Depuis les assauts répétés des bandits à la fin du mois de février dernier, le bâtiment situé au cœur de la capitale haïtienne est tombé aux mains des bandes armées. Une intervention de la police nationale haïtienne le 7 juillet dernier a permis de reprendre le contrôle de l'hôpital général et une rencontre a lieu jeudi pour parler de sa réouverture. Le docteur Jude Milsey est le directeur médical de l'établissement.
Pour le moment, on ne peut pas encore donner de date pour la réouverture. Nous sommes en train de planifier une visite sur le site et pour des raisons de sécurité, on ne peut pas non plus dire la date de cette visite. Mais on est en contact avec le directeur de la police nationale pour effectuer cette visite avec les responsables de l'hôpital et le ministère de la Santé.
En effet, cette réouverture nécessite une évaluation car cela fait 5 mois que le personnel de santé et les malades ont été forcés de quitter le centre hospitalier face à la fureur des gangs armés.
C'est un hôpital. On a besoin de matériel pour travailler. Est-ce qu'on disposera de tout le nécessaire? Après des mois de fermeture, on ne sait pas l'ampleur des dégâts. La première chose, c'est de faire une évaluation. Ce n'est qu'après qu'on pourra donner une date à la population pour la reprise des activités à l'hôpital.
D'ici là, la police reste sur place et élargit son périmètre de sécurité autour de l'hôpital général. Marie-André Bélange, Port-au-Prince, RFI.
Mais la situation dans les hôpitaux haïtiens qui inquiète, un Gary Conille a visité l'hôpital de Port-au-Prince cette semaine. Il boucle ainsi son premier mois à la tête du pays. Antoine Galen, la presse haïtienne s'interroge sur son bilan
Un mois de promesses et de rencontres, c'est le bilan dressé par Jean Farès Jérôme, éditorialiste au Nouvelliste. Il aborde la coopération entre Gary Conny et le Conseil présidentiel de transition. Pour l'instant, on constate des autorités qui se cherchent, qui se demandent quel est leur rôle, quelle est leur mission. Il y a quelques jours, le Premier ministre occupait le devant de la scène pendant son voyage aux États-Unis, des entretiens avec ses homologues sur le déploiement d'une mission multinationale menée par le Kenya, à laquelle Washington a apporté son soutien. Cette visite, selon l'éditorialiste, a été la goutte d'eau qui a fait sortir le Conseil présidentiel de transition de ses gonds, car relégué au second plan. Les deux parties donnent l'impression d'être en compétition, mais le temps presse, et au fur et à mesure que les jours défilent, Jean Farès Jérôme a des sueurs froides, car les bandits recommencent leurs exactions contre la population. Il conclut en écrivant qu'il est urgent de concrétiser ses promesses.
RFI. La radio del mundo.
On part en Argentine, où les rugbymen français Oscar Jégou et Hugo Oradou sont arrivés à Mendoza, dans le nord-ouest du pays. Ils sont entendus en ce moment par la justice argentine. Tous les deux sont accusés de viol avec violence à l'encontre d'une jeune femme dimanche dernier. Maître Natacha Romano est l'avocate de la victime présumée. Elle rapporte la version de sa cliente à Noémie Leweller. Attention, il s'agit là de propos très durs et parfois très crus.
Les faits se sont déroulés le dimanche 7 juillet à l'aube, vers 5h du matin, dans une discothèque de Mendoza en Argentine. De là, elle s'est rendue avec l'un des accusés, identifié comme étant Hugo, à son hôtel. Ils entrent dans sa chambre. Il l'avait invité à boire un verre.
Maître Natacha Romano, pardon, à ce moment-là, votre cliente est-elle consciente? Parce qu'il a été évoqué dans la presse qu'elle aurait pu être droguée.
On attend les résultats des examens de toxicologie. Elle s'est soumise volontairement aux examens. Elle veut savoir s'il y avait de la marijuana dans son sang, une substance quelconque, de l'alcool. On attend des nouvelles du laboratoire. Mais comme je vous le disais, elle rentre dans la chambre. Quand elle se rend compte qu'il ne s'agit pas de prendre un verre, elle demande à aller aux toilettes. Le jeune homme comprend qu'elle veut s'échapper, il l'attrape, la jette sur le lit, il commence à l'étouffer. Les résultats des comptes rendus corroborent l'étranglement, presque jusqu'à l'évanouissement. Elle commence à s'évanouir. Il lui donne un coup de poing au niveau de l'œil, dont elle garde encore aujourd'hui la marque. Elle a aussi reçu des coups à la tête, comme l'ont démontré les comptes rendus et les radios réalisées. Elle a reçu des coups à la poitrine, dans le dos, des morsures dans le dos, des griffures, des coups aux jambes. Après lui avoir infligé ces coups, il commence le premier abus sexuel parce que cet homme, Hugo, est accusé d'avoir commis au moins 6 épisodes d'abus sexuels. Après une heure, quand le premier abus se termine, un deuxième homme entre, Oscar. Hugo lui ouvre la porte. La femme est en état de choc. Elle ne veut pas bouger. Donc Hugo décide de la saisir par les cheveux et de la traîner dans la chambre. Il la remet à ce deuxième homme et l'oblige à un acte de sexe oral pendant que lui la pénètre une nouvelle fois. L'abus se répète. Elle est aussi maltraitée par Oscar. Il la frappe, selon le même mode opératoire que son ami. Elle mentionne qu'il tente aussi de l'étrangler. Et durant toute la durée des faits, ils l'ont privé de liberté pendant minimum 3h30, 4h. Elle a essayé de s'échapper au moins 5 fois, en leur parlant, en leur demandant en anglais qu'ils la laissent rentrer chez elle. Hugo s'est montré très fermé. Il ne l'a pas laissé partir jusqu'à ce qu'il s'endorme. Et le dernier qui s'endort, c'est Hugo. Et c'est là, après quelques minutes, qu'elle réussit à s'échapper aux alentours de 8h30 du matin.
Et où se trouve et comment se sent votre cliente à l'heure où l'on parle ?
La victime est en ce moment hospitalisée. Elle a souffert d'une hypothymie à cause d'une décompensation générale due, bien sûr, aux faits survenus dimanche. Elle bénéficie d'un encadrement psychologique et psychiatrique mis à sa disposition par le ministère public, selon les protocoles d'assistance aux victimes. Elle est aussi sous médication pour ses blessures. Elle a plus de 20 blessures sur tout le corps.
Maître Natacha Romano, l'avocate de la victime présumée au micro RFI de Noémie Leweller. L'avocat des joueurs français, lui, n'a pas souhaité répondre à RFI, mais auprès de nos confrères, Maître Raphaël Cuneo, Libra Rona, qui défend Oscar Jégo et Hugo Radou, affirme que ses clients n'ont pas frappé la victime présumée et qu'ils ont eu, je cite, une relation sexuelle consentie avec la plaignante. RFI 15h19 à Paris, 10h19 à Brasilia. Au Brésil, le scandale d'espionnage présumé sous la présidence de Jair Bolsonaro qui prend de l'ampleur dans la presse du pays, Antoine Galen.
Oui, la pression s'accentue sur Jair Bolsonaro. La police fédérale a dévoilé des nouveaux noms de victimes d'espionnage menées par l'administration de l'ancien président. Une coopération avec l'agence brésilienne de renseignement. Dans Folha de São Paulo, on peut lire quelques noms des journalistes ciblés. Monica Bergamo, chroniqueuse politique dans ce même quotidien. Vera Malgales du journal O Globo, mais aussi des politiciens, João Doria, ancien gouverneur de Sao Paulo, ou encore Rodrigo Maia, ancien président de la Chambre des députés du Brésil. Il a d'ailleurs dénoncé dans un communiqué un comportement de gouvernement totalitaire et criminel digne des pires dictatures. Le Brazilian Report ajoute que la police fédérale a accusé l'administration de l'ancien président d'avoir entravé l'accès de la police à deux de ses fils et d'avoir utilisé du personnel gouvernemental et des logiciels espions pour diffuser de la informations. Condamné l'an dernier à 8 ans d'inéligibilité, notamment pour diffusion de fausses informations, Jair Bolsonaro semble cerné par les affaires.
Les titres de la presse avec vous, Antoine Galen.
Le journal de l'Outre-mer.
Avec nos confrères de La Première et Alex Léveillé et l'ouragan Beryl qui aura un impact économique à long terme sur les îles du sud de la Caraïbe, Alex.
Et oui, et donc 10 jours après son passage, les autorités commencent à chiffrer l'étendue des dégâts et ils sont considérables. Franck Aristide de Guadeloupe, La Première.
Des centaines de millions de dollars de pertes et des centaines de millions de dollars à prévoir pour la reconstruction. Les îles de Grenade, Cariacou et Petite Martinique sont presque complètement dévastées. De nombreuses habitations étaient en bois et pas assurées. Une équipe d'experts vient d'arriver dans les territoires impactés. Le gouvernement devrait annoncer d'ici la semaine prochaine la mise en place de mesures fiscales en faveur des sinistrés. Pour les autorités, il est aujourd'hui impératif de reconstruire autrement des structures capables de résister aux phénomènes cycloniques. De son côté, Sainte-Lucie aussi a commencé à faire les comptes. Elle chiffre pour le moment à près de 2 millions de dollars les dommages sur le bâti, l'agriculture et la pêche. La Jamaïque également a débuté l'évaluation des estimations. 6 millions de dégâts pour elle, pour l'heure. Enfin, la CARICOM estime plus généralement que ce sont de nombreuses cultures agricoles qui ont été mises à mal pour de longues années dans la Caraïbe, avec pour conséquence un recours massif aux importations pour des économies déjà lourdement endettées.
Franck Aristide de Guadeloupe, La Première. Et on reste dans le domaine agricole pour faire face à l'augmentation de certaines charges engendrées par la guerre en Ukraine. L'État a mis en place un dispositif d'aide exceptionnel au profit des producteurs de fruits et légumes et des planteurs de bananes de Martinique. Grégory Gabour de Martinique, La Première.
Il est parfait, il est bien mûr.
Abdoul Jiré, copain Giroumont, c'est l'un des très nombreux fruits et légumes que cet amoureux de la terre produit sur son exploitation de 26 hectares au quartier Mornevert à Ducos. Mais le cultivateur a dû changer son fusil d'épaule après que son budget engrais ait doublé suite à l'invasion russe en Ukraine il y a 2 ans et demi.
J'ai laissé tomber les engrais chimiques et d'aller vers les engrais bio. À ce propos, j'ai d'ailleurs mis un petit troupeau de moutons qui m'aident aussi à faire du fumier et à désherber en même temps.
Abdoul n'est pas le seul à avoir fait des économies. Sur les près de 1200 producteurs de fruits et légumes répertoriés ici, un très grand nombre se sont adaptés, contraints pour certains de revoir leurs objectifs de production à la baisse. José Maurice, président de la Chambre d'agriculture.
Le fait de ne pas pouvoir acheter 10 sacs, mais c'est 2 sacs d'engrais seulement, ils n'ont pas disparu, mais ils s'adaptent. Mais la conséquence, c'est qu'on a une diminution de la production.
Ceux qui veulent d'une aide sont invités à faire leur demande sur le site de la DAF avant le 31 juillet pour les producteurs de bananes dessert et avant le 16 septembre pour les autres. Les candidats devront prouver qu'ils ont produit l'an dernier et qu'il disposait d'une surface en production de fruits en 2023.
Sujet signé Grégory Gabour de Martinique, la première. Et c'est la fin de cette édition. Merci à Bruno Dessomme pour la réalisation. Excellent début de week-end à tous.
Merci beaucoup Alex Léveillé. Très bon week-end. Et c'est la fin de RFI Midi. Merci à Vincent Biteau et à Pauline Berthélémy pour de l'avoir réalisé ce rendez-vous d'information. Mais comme tous les vendredis, pour bien finir la semaine, on poursuit notre périple musical à travers les États-Unis jusqu'à la présidentielle de novembre. On remonte ensemble le Mississippi avec le livre Rock'n'Roll Trip, les États-Unis en 1000 chansons de Laurie Kenton. Laurie Kenton qui est au micro RFI de Julien Coquel-Rohem. Très bonne journée à l'écoute de la Radio du Monde.
Bonjour Laurie Kenton.
Bonjour Julien. It's late and she's waiting and I know I should go home. But every time I start to leave, they play another song.
Aujourd'hui, direction Milwaukee, une ville au bord du lac Michigan, au nord de Chicago, où doit se tenir dans quelques jours la convention républicaine. Alors, Lorik, comme Jerry Lee Lewis le chante ici, qu'est-ce qui a rendu Milwaukee célèbre ?
La bière, la brasserie Shields en particulier, dont le slogan était justement « la bière qui a rendu Milwaukee célèbre ». Et dans tout le Midwest, la forte immigration germanique du 19e siècle a eu pour conséquence l'importation de traditions comme le brassage de la bière. Et on le sait moins, mais il y a aussi une forte empreinte allemande au Texas.
Une bière qui fait la fierté de Milwaukee et qui cause la perte de Jerry Lee Lewis, donc, mais ce n'est pas la seule fierté de la ville.
En effet, Milwaukee, c'est aussi la ville de Harley-Davidson depuis 1903, et c'est là encore que la série Happy Days est censée se dérouler dans des années 50 idéalisées, mais qui ont alimenté l'imaginaire des téléspectateurs des années 70 et 80, voire après, hein, puisque la série est restée à l'antenne en France au moins jusque dans les années 1990.
Et pourtant, Milwaukee n'est pas vraiment mise à l'honneur dans la série.
Ah non seulement les protagonistes carburent plus au milkshake qu'à la bière, mais la moto du légendaire personnage Fonzie est une Triumph Trophy Custom de 1949, donc une moto anglaise.
Gare au malentendu, et c'est donc à Milwaukee que les Républicains vont officiellement désigner Donald Trump comme leur candidat pour la présidentielle. Le Rick, c'est l'occasion pour nous de revenir sur les chansons qui ont marqué les campagnes républicaines.
Un gros dossier, hein. Vous parliez de malentendu à l'instant, on pense immédiatement à la campagne de 1984, quand le président sortant, Ronald Reagan, s'approprie ce titre sorti au début du mois de juin.
The USA avec le drapeau sur la pochette, effectivement, ça sonne patriotique et bigrement réganien.
Et pourtant, c'est un gros contresens.
Ah bon ?
Ah oui, c'est l'histoire d'un type qui se retrouve envoyé au Vietnam malgré lui et qui revient dans un pays qu'il ne reconnaît plus et qui ne le reconnaît pas. Springsteen, qui n'avait pas été jugé apte pour le Vietnam, est très sensible au sort des anciens combattants, dont beaucoup sont injustement oubliés par le pays qu'ils ont servi.
Difficile de faire plus à côté de la plaque pour les Républicains. Côté démocrate, cette fois on pense à la Macarena lors de la convention de 1996.
Ah, on va s'épargner ça, hein, de bon matin. Citons plutôt Don't Stop de Fleetwood Mac, sorti en 1977 et mobilisé par la campagne de Bill Clinton en 1992.
N'arrête pas de penser à demain, c'est effectivement un mantra tout trouvé pour un candidat.
Et le groupe va même se reformer exceptionnellement pour l'investiture de Clinton en 1993.
Plus près de nous, il nous faut à nouveau parler de Bruce Springsteen.
Alors on parle jamais trop du boss, hein, voyons, hein, mais il est tellement pertinent. Ici, Bruce Springsteen bricole un vieux gospel et évoque un train, This Train, où tout le monde est le bienvenu, les saints comme les pécheurs, les vainqueurs comme les perdants, les prostituées comme les joueurs.
Un bel exemple d'inclusion chère aux démocrates, soucieux de ne laisser personne au bord du chemin. Cette chanson, Land of Hope and Dreams, elle a été utilisée à l'occasion de quelle campagne ?
Alors c'est une longue histoire. Dès 2004, quand Springsteen soutient John Kerry, puis à plusieurs reprises, et notamment il la joue au moment du discours d'adieu de Barack Obama en 2017, et enfin en version acoustique lors de l'investiture de Joe Biden en janvier 2021.
Mais c'est un peu l'hymne officieux du Parti démocrate, cette chanson.
Bah, ça n'est pas tout, parce que Springsteen a lu le texte d'un spot télé en faveur de Joe Biden en 2020 où il vantait la proximité du candidat démocrate avec l'électorat ouvrier sur fond de son autre chanson, My Hometown.
Et c'est sur ces quelques mesures de My Hometown que nous nous quittons. De quoi sera-t-il question la semaine prochaine, Loric ?
De violence policière avec devinez qui ?
Je crois avoir une petite idée. On se retrouve vendredi prochain.
À vendredi.
RFI Midi. Le goût du monde. Clémence Denavy.
Toute jeune, elle a pris son envol en apprenant à faire du pain, puis des gâteaux, des fraisiers, des choux à la crème, des flans vanille, un gâteau pour chaque moment de la vie, des bouchées de joie et des sourires. Nina Métayer est la première femme meilleure pâtissière du monde. Elle est notre invitée ce dimanche à 11h30 en temps universel.
Le goût du monde. Clémence Denavy sur RFI.